Et tout de suite, Le Voyage Radiophonique, un documentaire sonore, francophone, indépendant.
Immersion du côté de Narbonne, à la découverte d'un animal mystérieux pêché depuis des millénaires et aujourd'hui en danger critique d'extinction, l'anguille. Puis direction les Corbières maritimes pour parler des accents et de ce qu'ils racontent de notre histoire.
Anguille sous roche, un documentaire de création d'Alice Roy.
Et on est à l'Hérault, au cabanon des pêcheurs. Et moi je suis pêcheur, pêcheur à l'étang et pêcheur à la mer. Et ça fait 23 ans.
On a un petit clapotis parce qu'il fait un peu de vent d'est là, mais c'est une eau qui ressemble finalement aujourd'hui en tout cas à l'eau de la mer. L'étang fait 5300 hectares. La profondeur elle varie entre 1,80 m et 3 m.
L'étang, en tout cas l'étang de l'Hérault, il a une forme un peu ovale. Hein. Il communique avec la mer.
On n'est pas collé à la mer malgré qu'on soit alimenté par la mer.
La relation avec la mer, elle est permanente.
Laurent Benoît, ingénieur en environnement.
Il y a un rythme de marée aussi. C'est assez peu connu, mais en Méditerranée, il y a quand même une marée. Le marnage est très, très faible, hein. C'est 30 cm de marnage, mais toutes les 6 heures, on a un phénomène de marée ici. Le niveau de la mer monte, l'étang se remplit. Le niveau de la mer descend, l'étang peut se vider en partie. Donc même ces 30 cm-là, ils se voient à travers ces phénomènes-là. Alors le vent peut accentuer ou au contraire tamponner ce phénomène-là.
Ah, le vent qui souffle 265 jours par an. On a une tramontane qui souffle très très fort. Mais là maintenant, avec les changements climatique que l'on a, la tramontane elle souffre de moins en moins.
Jean-Luc Fayos, responsable de la base nautique de Port-Mahon à Sigean.
Elle nous rend de moins en moins fous.
On a un texte qui nous parle du Cers. L'empereur Auguste, quand il est venu dans la région, aurait créé un temple à ce dieu.
Corinne Sanchez, archéologue au CNRS.
Qui montre que c'est quelque chose qui a beaucoup marqué même les Romains.
Bon, puis le vent, on vit avec. Le Cers aussi. Le cerf, c'est la tramontane. Alors, on va jouer sur le mot, il y en a qui disent que la tramontane et le cerf, c'est pas la même direction. Mais bon, ça vient du nord-ouest, hein, donc.
Ces petits vents du nord, la nuit noire, hein, quand je suis en mer, je peux fermer les yeux, je sais que je suis au large de l'étang. Il y a cette odeur qu'il n'y a que à l'étang. Certains diront que ça pue, mais ça pue pas. Hein. C'est un peu d'algues en décomposition que le vent ramène. Hein. Cette odeur de sel.
La salinité d'une lagune, elle est liée à la fois à sa connexion de la lagune à la mer et puis aux apports d'eau douce continentale. C'est-à-dire que la salinité de la mer, elle est à 38 grammes de sel par litre. Et l'eau douce, évidemment, elle est exempte de sel. Donc on est dans une eau de lagune qui est théoriquement comprise entre 0 et 38 grammes de sel par litre.
Aujourd'hui, on est sur des milieux qui sont de plus en plus salinisés, avec malheureusement des assèchements de zones humides.
Jean-Baptiste Gobert, pêcheur petit métier.
Avec des cours d'eau qui donnent de moins en moins, un manque bien sûr de pluviométrie, mais bon, ici, il n'a jamais trop plu non plus. Hein. On manque d'eau douce et donc on a un mauvais recrutement de civelles. Donc on a un manque.
Ce sont des milieux qui se sont formés à partir d'eux, il y a 20 000 ans. La température s'est réchauffée, les eaux aussi. Et du coup, le niveau de l'eau en mer est monté. Il était à plusieurs dizaines de kilomètres que le niveau de l'eau actuel.
Durant l'époque romaine, on va avoir une lagune beaucoup plus vaste, des espaces anneaux qui couvrent aujourd'hui des espaces qui sont mis en culture. Et ce cloisonnement se fait au fil du temps, notamment à cause des apports de l'Aude. Et petit à petit, cette grande lagune va se subdiviser et va se combler.
Et en remontant, cette eau de mer, elle a poussé devant elle un bourrelet sédimentaire. Ça a créé des morceaux de mer intérieurs, on va dire. Et ces bourrelets, ils ont été finis d'être colmatés par les sédiments qui venaient des eaux douces du continent.
Ce Ça va être à la fin du 19e siècle, la création de la voie ferrée, qui va vraiment séparer les étangs en deux et accélérer ce colmatage.
Il y a quelques jours, l'eau elle était complètement turquoise.
Dans l'étang, il y a toutes les couleurs.
Quand il y a du vent, oui, la lagune, elle commence à devenir toute blanche. Sur l'eau se forment des vagues qui cassent, l'écume, qu'on appelle ça des moutons. Puis plus ça va, puis il y a de plus en plus de moutons. Et puis d'un seul coup, l'étang devient marron. Et il restera marron tant que le vent soufflera. Alors que quand c'est le vent marin qui rentre, là on voit comme une vague de couleurs qui arrive et qui pousse la couleur bleue quoi, vers le fond de la lagune.
C'est-à-dire que des fois, quand on navigue avec la barque, on passe sur des endroits où c'est qu'il y a un petit peu comme du sable d'étang, on appelle ça, du sable qui est un peu gris. Ça fait des reflets avec l'eau, on passe sur des endroits où c'est verdoyant, parce que là il y a des herbiers magnifiques. Tous les jours est un autre tableau. Et même la nuit, moi je travaille aussi beaucoup la nuit dans les étangs, la nuit c'est totalement différent. Il y a des nuits où il n'y a pas de lune, où là c'est vrai qu'on a du mal à se repérer, c'est des fois un peu bizarre, mais là comme la nuit dernière où c'est qu'il y avait quasiment la pleine lune, c'est extraordinaire. Quoi. C'est-à-dire que là, on entend les choses, on voit les choses, hein. Ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est et moi j'aime ça, que ce soit par exemple pour la pêche ou la chasse, c'est ce milieu, en fait cette vie de la journée qui va se coucher comme le soleil, et cette vie de la nuit qui commence une fois la première étoile qui se lève. Quoi.
Parmi les techniques de pêche qui pouvaient être utilisées à l'époque romaine dans les étangs lagunaires, alors on en a une qui est décrite par Pline.
Gaël Piquès, archéologue au CNRS.
Alors il nous dit que cette pêche se pratique au niveau du gros, entre la mer et l'étang. Donc là, les pêcheurs arrivent avec des filets maintenus par des grandes cannes et ils entourent en fait les bancs de poissons et ils utilisent les dauphins qui en fait rabattent les poissons dans leurs filets. Les pêcheurs remercient les dauphins en leur jetant du pain trempé dans du vin.
Quand il y a 40 ans de ça, il y avait 37 pêcheurs et actuellement ils ne sont plus que deux à venir. Quoi. Et pendant les grosses campagnes de pêche anguille, donc qui commençaient au mois de septembre-octobre, on voyait débarquer des pêcheurs même sur nos plages là. Là maintenant c'est fini. Quoi.
On peut passer 2-3 ans avec des très petites pêches et d'un coup avoir une année exceptionnelle. Bien sûr parce qu'il y a des apports d'eau, parce qu'il y a de la pluie ou des trucs comme ça, mais les anguilles ne tombent pas du ciel. Quoi. Donc ça veut dire qu'à un moment, quand il y a ces conditions climatiques réunies, il se passe quelque chose dans leur comportement et je pense vraiment que la clé alors ça reste de la pêche. La pêche déjà en elle-même c'est un mystère. La pêche c'est un métier d'incertitude. C'est pas un métier qu'on peut écrire dans un carnet en disant le 12 avril j'ai pêché ça, l'an prochain je vais repêcher. Non, la pêche elle c'est fini, c'est passé une fois et puis c'est terminé. Et je crois que pour les anguilles c'est un peu pareil, c'est très mystérieux parce que déjà on ne les voit pas. De jour, moi je navigue beaucoup dans les étangs, c'est très rare de voir des anguilles en plein jour. La nuit, on peut les voir. Des fois, avec la lampe, ça peut arriver. Mais c'est un poisson mystérieux. C'est quelque chose qui se cache toujours, qui a des comportements vraiment... Moi, j'ai vu des gros coups de froid dans l'étang, avec des poissons morts, des loups morts, des muges morts, mais de l'anguille, jamais. C'est un poisson qui est très costaud. Il paraît qu'elle descend dans la vase et se plantait. Il y avait un vieux à l'époque de Grussan qui disait qu'elle se plantait à plus de 10 mètres. Vrai ou faux, j'en sais rien, mais bon, histoire de vieux, mais voilà quoi.
Une anguille, je la comparerais à une couleuvre. Voilà. Par contre, c'est très très bon. On ne les voit pas, ça c'est sûr, on ne les voit pas. Non, elles ne sortent pas au-dessus de l'eau, elles ne s'entortillent pas autour des piquets de pêche. Non, on ne les voit pas.
L'observation des anguilles en étang est assez rare, assez difficile. On peut les voir si on fait effectivement en faisant une palme masque tuba. Ça peut arriver de les voir se faufiler entre les herbiers. Il faut y aller souvent pour les voir. Moi, j'en ai pas vu si souvent que ça.
On va avoir pour les mâles des individus qui vont mesurer entre 30 et 45 cm de long.
Claudie Iborra, biologiste marin.
Et pour les femelles, on va généralement, elles mesurent autour des 50 cm. Donc elles sont vraiment plus grandes et plus grosses aussi, plus épaisses.
Et ce sont des poissons qui ne sont pas du tout farouches d'ailleurs. On arrive à les approcher de façon assez facile, contrairement à d'autres espèces.
Oh ben c'est tout gluant, c'est pas ragoûtant quand on le voit. Hein.
Ça ressemble assez à un serpent, moi je trouve. Un serpent, un orvé, quelque chose d'assez allongé, effectivement. Ouais. Et c'est assez joli à voir évoluer dans l'eau, en tout cas.
Quand elle se transforme, qu'elle devient argentée, la femelle, on l'appelle l'anguille mazère, la mazère, et le mâle, qui est plus petit, c'est le mazérou.
Ça fait partie des espèces les mieux représentées parmi les échantillons archéologiques, notamment.
On sait que c'est un poisson qui est très, très, très ancien.
Une anguille, c'est à peu près 130 vertèbres. C'est difficile d'avoir un squelette en connexion, ça appartient dans tous les sens. Les Romains pêchaient des anguilles. On a un cas particulier, c'est avec le vivier de Port-la-Nautique. Donc c'est un des plus grands viviers qui a été retrouvé dans le monde romain. C'est à peu près 60 mètres de diamètre. Avec au milieu un triclinium, c'est une salle à manger. Et il y a un petit bassin au milieu de ce triclinium où ils mettaient des poissons. Ils pouvaient choisir leurs poissons et choisir les poissons qu'ils allaient consommer. Et donc dans ce vivier, on retrouve des poissons marins qui ont été acclimatés. Ils ont reproduit en fait un aquarium marin. Donc il y a de la murène, des labridés, donc des poissons très colorés, des labrepans, labremerle, voilà, et de l'anguille. Donc c'est des anguilles qui étaient capturées dans les lagunes et qui étaient stockées en fait dans ce vivier. On les laissait grossir voilà, pour les avoir à portée de main, les manger quand on en avait besoin.
Là, on va aller reposer des filets à anguilles qui ont séché pendant la lune. Hein, parce que quand il y a la lune, les anguilles, ben, elles y voient bien, hein, comme nous. Et donc là, maintenant, on est sur le tombé de lune. Donc on va remettre des filets en place hein, et on verra ce que ça dira les jours prochains. Quoi. Voilà. Le pêcheur, il suit le poisson. Le poisson, il a une tendance à rentrer dans les étangs au beau jour. Donc, ben, voilà, il y a des moments où c'est que, en fait, il y a deux sortes de pêcheurs. Il y a le pêcheur qui fait uniquement que l'étang. Lui, bon, eh bien, il y a des moments de l'année où c'est que vraiment il y a des gros passages à vide parce que c'est l'époque où c'est que il fait très froid et le poisson a déserté les étangs. Et ensuite, il y a le pêcheur qui est dans mon cas, hein, qui lui fait, on va dire, l'automne, l'hiver, il travaille les loups, les dorades et les anguilles dans les étangs. Et le printemps et l'été, il travaille le poisson de la mer, à la mer, voilà, naturellement.
On déploie le filet vraiment avec les nasses, les pantanes. Hein.
Ça se pêche avec les capechadas. Capechadas, système de filet très très ancien. Hein. C'est son ancêtre. L'ancêtre, la capechada, c'était le trabac, hein. Ce que les vieux utilisaient.
C'est un filet en forme de cœur qui forme comme un bassin avec trois nasses. Hein. Il y en a une que c'est la pantane maître, c'est celle qui est droite. Hein. Elle pêche plus que les autres, c'est normal parce qu'elle est dans le sens du filet, de la marche. Hein. Et les autres, c'est les reculs. Ça fait comme un cœur. Dedans, dans les nasses, il y a un système d'entonnoir. Et le poisson, ben, comme il ne sait pas faire marche arrière, il est coincé, ça fait des goulets. Des goulets étranglement.
Quand tu pêches du poisson, autre que l'anguille, c'est beau.
Voilà, ça pêche les crabes. Hein. Les crabes, les anguilles, les geôles.
C'est brillant, c'est joli, quand il y a des filets avec des loups dedans ou des dorades, hein, c'est un autre aspect. En revanche, quand on pêche des anguilles, ça n'a pas le même aspect, ça n'a pas le même... Bon, l'anguille, elle a mauvaise presse, parce que bien sûr, elle ressemble à un serpent. Hein. C'est pour ça que d'ailleurs, beaucoup de gens l'ont délaissé un peu pour manger. À l'époque, ils se consommaient énormément d'anguilles à local, mais là, ils s'en consomment quasiment plus.
L'anguille, elle est considérée, ben en Bretagne, par exemple, c'est un serpent, ils ne l'aiment pas du tout. Hein. Ils ne mangent pas d'anguille en Bretagne. Alors que vous avez des civilisations en Hollande, en Allemagne, en Asie, mais c'est le poisson le plus cher. Hein. Ils adorent l'anguille ou la petite jeune anguille, la pibale, la civelle.
Gilles Boeuf, biologiste, professeur des universités.
Ou bien alors, effectivement, l'anguillette un peu plus grande ou la grosse anguille. Donc, ce qu'elle est merveilleuse, c'est qu'elle naît en mer des Sargasses pour l'Atlantique. Hein. Il y a plusieurs lieux de ponte d'anguille dans le monde, il y en a une aussi aux Philippines, pour l'anguilla japonica, la japonaise. Donc, elle pond en très grande profondeur, Et on sait maintenant qu'il faut déclencher la ponte par la pression. Elle a des barreaux récepteurs hein, dans le cerveau de l'animal qui font qu'elle va faire les hormones de la reproduction, ce qu'on appelle les gonadotropes, hein, comme chez une femme, c'est pareil. Hein. Et donc, elles pondent. Ils sont des toutes petites larves, toutes petites, petites, qui vont remonter et qui vont mettre 2 ans à traverser l'océan Atlantique pour venir sur les côtes européennes, en Espagne, au Portugal, en France, dans les îles britanniques, en Scandinavie. Et là, on l'appelle civelle ou pibale, hein, c'est la toute petite. Et là, elle se métamorphose en anguille d'eau douce. Elle va vivre entre quelques années et 20 ans, peut-être 50, dans nos rivières. Et elle est pêchée sous forme d'anguille dans les marais littoraux ici. Et puis un jour, elle prend une décision incroyable. Je vais revenir à ma profondeur natale. Une fois dans la vie. Hein. C'est pas terrible les câlins chez l'anguille. C'est une fois dans la vie. Hein. C'est quand même pas génial. Elles vont devenir argentées. Leur métabolisme, on a beaucoup travaillé là-dessus, change totalement. Un poisson d'eau douce fait pipi en permanence, mais il ne boit jamais d'eau. L'anguille, quand elle est argentée, ça ne marche pas quand elle est jaune, quand elle est d'eau douce. Mais quand elle s'est métamorphosée dans l'anguille qui va redevenir marine, en quelques secondes, elle se met à boire de l'eau. C'est magique, on a fait des manips, mais j'étais bluffé, hein. Même pas une minute, elle boit de l'eau, parce que l'eau est salée. Donc elle a des récepteurs géniaux, en fait, ainsi dans la bouche. Donc il y a la pression, récepteur à la salinité, elle retraverse l'océan Atlantique, elle descend en mer des Sargasses, et là, elle se reproduit une fois. Donc c'est un warrior incroyable, quoi. Et on est en train de la détruire aujourd'hui, parce qu'on a fait des barrages n'importe où, on a pollué nos rivières, évidemment, on l'a surpêchée dans les estuaires.
Tu veux la concrétion, là ? Vas-y, voilà. Là, je fais passer le plomb à côté. Et j'essaye, parce qu'elle est grande. Hein. Hey, t'es con. C'est un poisson mystérieux, parce que déjà, les études dessus sont très récentes. Hein, qui a un comportement, déjà, ce comportement exceptionnel de la transformation. Je vais dire, en gros, il y a 40 ans en arrière, on pensait que l'anguille argentée, ou enfin, peut-être pas 40 ans, mais peut-être un peu plus, on pensait que l'anguille argentée, c'était une espèce d'anguille, et l'anguille verte, c'était, ou jaune, c'était une autre espèce. Alors qu'en fait, on découvre que, bien sûr, c'est la même, mais il y a une transformation, pas toute la font, il y a tout un... voilà, je pense qu'on en découvre un petit peu chaque jour là-dessus, mais on en sait pas la moitié de ce qui se passe réellement, quoi. Ce qui est certain, c'est que c'est une espèce quand même très robuste, qui s'adapte, elle est capable de s'adapter à des milieux salés, des milieux doux, c'est très costaud l'anguille, hein, c'est rude.
On ne connaît vraiment pas encore tout de l'anguille, pourtant c'est un poisson qui est suivi depuis maintenant des années.
C'est un merveilleux modèle d'étude sur lequel le muséum s'est penché. En 72, Sylvie Dufour et ses collègues démontrent le besoin absolument fondamental et vital pour une anguille pour se reproduire de passer par de la haute pression, donc des très grandes profondeurs, en mer des Sargasses. Donc on n'a pas réussi à l'élever, parce que c'est difficile à recréer en captivité.
On n'a jamais vu encore une anguille se reproduire. On a beau faire de l'aquaculture, on peut juste faire croître une anguille dans un bassin, mais on ne peut pas la faire se reproduire.
Les scientifiques ont prouvé qu'il y a une reproduction dans la mer des Sargasses. Donc, il faut les croire. Hein. Donc, il y a eu des Grussan d'ailleurs, il y a eu des campagnes de marquage d'anguilles argentées femelles suite à des opérations en partenariat avec les pêcheurs et les scientifiques. On a pu voir qu'en effet, elle sortait par le détroit Gibraltar et que elle se dirigeait vers la mer des Sargasses. Malheureusement, d'ailleurs, pour l'anecdote, une des anguilles grussanaises qui avait bien avancé a été mangée par un cachalot. Voilà, on l'a su, ils le savent par rapport au relevé de température intérieure. Quand ils ont vu que d'un coup la sonde n'était plus à 12 ou 13 degrés, température de l'océan, et d'un coup passée à 37, 36, la température intérieure, ils ont compris qu'elle avait été mangée et ensuite, bon, la sonde est remontée à la surface, ils l'ont reprise. Le cycle de l'anguille, il y a le petit alevin d'anguille, la civelle, qui remonte dans les lagunes à partir de mi-novembre, on va dire, qui peuvent remonter jusqu'à au moins au mois de janvier. Et ces petites civelles remontent et colonisent les petits cours d'eau, les étangs, et ensuite grandissent, se transforment et deviennent anguillettes, puis deviennent anguilles vertes. Et au moment où c'est qu'elle arrive à une maturité sexuelle, là, elle va se transformer une fois de plus en anguille argentée.
Et cette anguille, qui est l'animal le plus banal qui soit, est en train de disparaître.
Nous, ici, la civelle, on ne la pêche pas, c'est interdit.
Et aujourd'hui, les stocks ne réaugmentent pas. Ils sont relativement stables, mais ils restent quand même très bas pour cette population. Et les scientifiques ont peur qu'il n'y ait pas de retour à la normale, en tout cas, ou qu'il n'y ait pas assez d'individus reproducteurs pour pouvoir assurer le maintien de cette espèce au sein de nos étangs.
Depuis 3 ans, il est classé par le CEM, le Conseil international des sciences de la mer, et par l'IUCN, hein, comme espèce en danger critique d'extinction.
2018, où c'est qu'il a plu, il y a eu des grosses pluies, on a pêché beaucoup d'anguilles. Ces anguilles ne sont pas sorties du jour au lendemain du chapeau. Elles étaient là, ces anguilles. Les anguilles qu'on a pêchées, c'est les anguilles adultes. Elles sont arrivées de quelque part. Donc, pour moi, tout n'est pas perdu.
Jamais je dirais que c'est la faute des pêcheurs d'anguilles si elles disparaissent. Mais quand une espèce s'effondre, arrêtons de la pêcher quelque temps. Comme on l'a fait pour le thon rouge il y a quelques années. Hein. Si on n'avait pas fait ces mesures très dures en 2007 jusqu'en 2011 de sauvetage du thon rouge, il serait parti de la mer Méditerranée. Hein. Il prenait la même voie
après
que
les
la morue à Terre-Neuve.
Sur l'arrière-pays. Direction les Corbières maritimes, pour écouter les accents et ce qu'ils racontent de l'appartenance à un territoire.
Murmures de la Corbière.
Murmures des Corbières.
Murmures des Corbières.
Et par Xilec Corbière.
Murmures des Corbières.
Chouchouka, c'est pas Corbière.
Murmure des corbières.
C'est-à-dire.
Murmure des corbières.
Murmure des corbières. Murmure de la corbière.
Murmurs from the corbière.
Une création sonore.
D'Alice Roy. C'est ça? Et vite, oui.
Depuis qu'ils ont mis ces éoliennes, ils ne peuvent plus.
Non, les nuages arrivent, mais ils sont aspirés. Les corbières là-bas, il pleut. Après du champ, il pleut. Ici, il pleut pas. Parce qu'avant, il y avait des coups de mer, ça flottait. Mais tout bas, on est plein, genre. Mais alors, Paris, depuis qu'on a les éoliennes, rien.
J'habite à La Palme.
Près de la Méditerranée, en bord de mer, quoi. Et voilà.
C'est rigolo. J'aime bien, moi, le mélange des accents. Et puis, il y a des accents très drôles aussi. Ici, les vieux, ils roulent les airs et ouais, c'est trop mignon à entendre, ça chante le soleil.
C'est les corbières maritimes, nous, hein. C'est pas les corbières. Hein.
Bonjour.
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 Ça va?
Et vous?
Oui, merci.
Vas-y, vous.
Ah oui, oui, nous on sait que quand on parle à quelqu'un d'étranger, enfin d'étranger, quand je dis étranger, c'est Montpellier. On n'est pas de Montpellier, ils le savent de suite qu'on est de l'Aude.
Non, les accents, oui. Non, oui. Pour nous, c'est tellement naturel que.
Comment c'est quoi l'accent? Ben, c'est mon truc à moi. Hein.
C'est fort l'accent parce que ça donne une identité.
C'est mon identité.
L'accent, c'est l'expression de l'appartenance à une communauté plus qu'un lieu en soi.
L'accent identifie les gens.
Mais ça vient de dedans, je sais pas.
Je pense qu'un accent, ça définit...
Une région, un endroit, un village aussi.
Et c'est ton histoire, en vrai.
Ça retrace un peu tous les endroits où on est allé, les gens qu'on a croisés.
On est comme ça, mais je pense qu'on l'apprend de bébé. C'est comme l'ouïe, la vue, l'odorat. C'est des choses qu'on a innées et c'est tout.
L'accent, c'est un apprentissage de ta jeunesse, hein, c'est ta vie, hein, l'accent.
Bah, l'accent, c'est une façon de parler. On n'entend pas trop l'accent quand ils habitent au même endroit que nous. Alors que quand ils habitent pas au même endroit que nous, on l'entend beaucoup.
ça permet de savoir d'où viennent les gens aussi.
C'est une musique aussi.
Pour moi, l'accent, c'est un patrimoine. Ça fait partie de nos gènes, de nos racines. Moi, j'ai pas envie d'une France unifiée, quoi. Plus de ça, si on a tous le même accent sur le territoire, on n'a qu'à faire, par exemple, un plat commun aussi.
L'accent donne une indication de ce qu'on est. Enfin, entre guillemets.
Pour quelqu'un qui voyage, qui a voyagé comme moi, c'est s'adapter. Parce que c'est aussi, je trouve, une forme de respect. Et on avance avec les autres, quoi.
Il y a de l'émotion dans l'accent. Chose qui, des fois, pour faire, par exemple, le journal de 20 heures, il n'y a pas d'émotion, c'est tout plat.
Il y a des accents qui marquent plus que d'autres. L'accent marseillais, c'est l'accent qui esclave, enfin, qui écrase.
Ça veut dire qu'on vit dans un territoire qui est rural, qui n'est pas très riche. Donc, parce qu'on a beaucoup de gens qui viennent de l'extérieur quand même. Et parfois, ils arrivent un peu en conquérant.
Ben, il fera caut ou fera ploura ou voilà. Ça, aujourd'hui il fera chaud, ou demain il fera caut, ou demain ben, la pluie. Ça veut dire demain on va avoir la pluie. Demain fera des vents. Maintenant c'est perdu tout ça, c'est fini. C'est à l'abandon, tout à l'abandon, et la France aussi.
Pour moi l'accent c'est mes grands-parents. Mes parents aussi bien sûr, mais mes grands-parents. Qui parlait le patois, qui avait un truc, des expressions, ils se parlaient entre eux, des fois je comprenais rien, parce que c'était du patois.
Par exemple, quand je suis avec mon mari, quand on parle tous les deux, si on se parle en français, ça va. Si on se parle en patois, aïe aïe aïe. C'est pas méchant, mais on se dit les choses différemment. Parce que c'est vrai que le patois, il exprime des choses qu'on n'exprime pas en français, et qui sont difficiles. Pour celui qui ne le comprend pas, c'est difficile pour lui de le comprendre.
Je me rappelle m'arrêter quand ils étaient tous regroupés là, et il m'a fallu quelques temps pour tout comprendre ce qu'ils disaient. Galou à quel qui passe, ils étaient à voir qui c'est qui parlait, ils faisaient un commentaire sur toutes les personnes qui passaient en voiture. Hein. Voilà, t'es arribo, t'es. Voilà.
Bienvenue au banc de la Rassègue. Ce qu'on dit souvent quand il passe, à quel est-ce cool, à patois. C'est un con, on dit à patois. Je ne sais pas qu'il en passe un, allez. S'il ne nous dit pas bonjour, à quel est-ce cool. On ne le manque pas.
Plutôt.
Oui. Oh non, mais c'est en race. Je te rappellerai, j'ai quelqu'un. D'accord, je t'appellerai, ouais, d'accord. Allez. Oui. Chier, déjà. Oh, il fait que craindre, hein.
Mon frère est l'apiculteur, il s'est remarié, donc il a rencontré sa nouvelle femme, qui était de la Ciotat, donc un accent aussi, encore un autre accent. Et pieds noirs. Et c'est pas méchant, hein. Un jour, je me souviens, il lui parle et lui dit « Chose de salope !» Ça veut pas dire que tu es une salope. Ça veut dire que tu cochonnes, que tu... Mais c'était pas méchant.
Ma grand-mère, elle disait, par exemple, « Trau des culs, ta matière. »« Trau des culs, ta matière », ça veut rien dire. Ça veut dire « Trou du cul, ta matière ». Mon grand-père, à la pêche, il disait... Conte de drôle, il est plutôt des drôles, tu vois, c'était le truc.
Quand tu le dis, c'est pas du tout méchant, c'est dit. Quand on dit à quelqu'un maniaque, alors ça aussi, maniaque, moi on dit maniaque. Alors déjà, maniaque, ils entendent maniaque que. Non, maniaque c'est gentil. En principe, quand tu dis maniaque à quelqu'un, c'est quelqu'un que tu apprécies, quelqu'un que tu aimes bien.
Vous voulez boire quelque chose, vous ?
Et je veux bien un verre d'eau, si c'est
un
possible.
Un verre d'eau ?
Ouais. Il y a...
Et il y a...
de l'alcool, si vous voulez, le partaga, si vous voulez.
La verveine, ah si,
non,
goûte la verveine.
Ah, ouais, verveine, c'est nous qu'on fait la verveine. Ouais. Je vais chercher les verres. Elle veut la verveine, c'est Camille.
Je l'oblige.
Qui l'a proposé. Mais, non, mais simplement fond, pour le goûter, appelle.
Tu donnes un fond.
Un fond, hein. Moi, je suis peut-être plus prononcé que d'autres. Bon, l'accent, je parle comme ça, hein, sans doute je l'ai. Hein, parce que quand je m'écoute, je me fais peur. Ouais, parce que c'est difficile, hein, et en plus, on parle vite, hein, et bon. À peine, hein, c'est de la verveine avec de l'alcool, fait maison. Hein.
C'est fort?
Ah, très fort.
Très, très fort.
Ça doit faire...
45.
Oui, 45. Oui, j'adore ça comme ça, s'il te plaît. Doucement, hein. Allez, doucement, hein. Tu veux me goûter un peu? Chin-chin, à la vôtre. Il ne faut pas que j'essaye de, comme on appelle ça, de me rafistuler, comme on dit, hein, vous savez. Si là, c'est, je bafouille encore plus. Mon accent, c'est le mien.
Est-ce que vous considérez que vous avez un accent?
Oui. Par rapport à ceux d'ici, parce que des fois, c'est vrai, je ne les comprends pas tout.
Regardez Jean Alsacien, hein? Il a son accent alsacien, c'est rigolo. Des fois, on lui fait répéter les choses parce qu'on ne comprend pas trop. C'est difficile, hein? Parce qu'il parle très vite, en plus.
Nous, on a l'habitude de parler doucement en Alsace, parce que bon... On cherche un peu les mots, on cherche les liaisons à faire, parce qu'on parle beaucoup l'alsacien. Hein.
On a un accent, oui, mais nous, l'accent, on ne l'entend pas. On l'entend des autres. C'est quand les autres parlent, il y a des gens qui ont un fort accent. Nous, on a un accent, oui, bien sûr, on a tous un accent, de toutes les régions. Même celui qui croit qu'il n'en a pas du tout, il en a.
Je ne pense pas avoir d'accent aujourd'hui.
Je crois que oui, j'ai un accent, oui.
Moi, non, je n'ai pas d'accent, non.
Je sais pas si j'ai vraiment un accent du coin. Ouais, une fois, je crois qu'on m'a sorti et si j'étais pas canadien. Alors que j'ai pas l'impression d'avoir un accent canadien. Ouais.
Moi, je le sens pas, mon accent.
J'ai un accent catalan, je trouve.
Oui, je considère que j'ai un accent.
Pas catalan, catalan, gabatch.
J'ai un accent. Personne ne me le dit que j'ai un accent catalan ou peut-être que j'ai un accent d'ailleurs. Non, non.
Moi, j'ai l'accent du midi, enfin du midi, de l'Aude, on va dire, je ne sais pas.
J'ai un petit accent quand même. Je ne sais pas d'où il est, mais il y est. Et je ne change pas.
Et oui, j'ai un bon accent de Toulouse que j'ai tenu absolument à assumer et à garder. Oui, oui, j'ai l'accent de Toulouse.
Du Sud?
Enfin, moi, j'ai l'accent d'ici. Je suis Nercave, je suis au village en dessous, moi.
Les gens d'ici me disent que j'ai pas l'accent d'ici. Et les gens qui sont pas d'ici me disent « Oh, toi, t'as l'accent du Sud ».
En fait, dans le Nord, j'ai l'accent du Sud. Et ici, oui, j'ai l'accent pointu, comme on dit. Donc.
C'est les gens qui viennent, ils ont un accent. Claude Nougaro, qui avait un accent, il avait une phrase qui m'a beaucoup marqué. Il disait « J'aime les aspérités des mots ».
Le truc le plus drôle quand on est arrivé, c'est le voisin qui a un chien. Il disait tout le temps, mais. Et il vient de caguer. Et caguer, mais c'est moi, je sais pas, j'avais jamais entendu ce mot. Ou alors, les ça pègue. Mais c'est tellement une expression du Sud. Moi, je j'avais jamais entendu parler de ça. Et oui, ça pègue, t'as pas une. Ouais, les poches, évidemment, tout ça. Et puis on les prend, enfin, hein, ça pègue, on comprend tout de suite, quoi. Et puis ça cague, ouais, aussi. Ça, c'est franchement, c'est drôle. Quand on est arrivé, on comprenait pas du tout.
Alors, il y a un mot que je ne comprenais pas du tout, c'est quand on me disait « t'es ensuqué ». Alors ça, vraiment, je l'ai laissé dire plusieurs fois avant de demander « mais qu'est-ce que ça veut dire, ensuqué ?» Parce que je trouvais que ce n'était pas très joli déjà, je me demandais si ce n'était pas une insulte.
J'ai un copain qui vient du nord de la France et quand je lui disais « tu m'espantes », il ne comprenait pas en fait chaque fois. Il me disait « mais qu'est-ce que tu dis ?» Tu m'espantes, espanter quelqu'un. Et moi, je croyais, jeune, hein, quand j'avais 20 ans, je croyais que espanter, c'était un mot français, quoi. Et en fait, non, non.
Franchement, au début, quand je suis arrivé, pour moi, c'était une langue étrangère, hein, qui parlait pas en français. Hein. C'était très, très rocailleux.
J'étais très content d'avoir fait ça de l'évangile.
Ça m'est arrivé comme ça d'entendre quelqu'un qui parlait français, mais je n'ai rien compris de A à Z. Et je me revois à le regarder, mais quelle langue parle-t-il? Et en fait, à côté de moi, tout le monde avait très bien compris qu'il avait dit quelque chose de simple, mais avec beaucoup de R, je n'avais rien compris, mais rien du tout.
La voisine, vraiment, je comprends pas du tout ce qu'elle dit. Et elle le sait, hein, je pense qu'elle en joue et c'est hyper sympa, mais ouais, c'est compliqué des fois. Franchement, je vais l'imiter parce que c'est hyper drôle. Mais quand elle arrive, elle fait un « Eh où ?»
Elle est venue nous parler très vite et on s'est dit « Oh mais elle doit être russe, c'est pas possible, elle a un accent tellement fort, mais de quel pays elle vient ?» Et plus on discutait avec elle, plus elle nous disait « Mais ça faisait 60 ans qu'elle habitait ici et tout ça. » Et qu'on a compris qu'en fait sa famille venait de la région, qu'elle n'était pas du tout russe, mais elle a un accent tellement fort que... On pensait qu'elle était russe, voilà.
Vous parlez trop vite, il me disait chaque fois. Bon, je me fasse carrage, je répondais, voilà, il ne comprenait rien comme ça. Ah, toujours, c'est vrai. Pouh, c'est pénible, ça. Et oh, il parle tellement vite, tu comprends aussi, tu vois. Parce qu'il parle vite à Paris, hein. Les vrais Parisiens, ils parlent vite entre eux, hein. Et tu comprends rien, hein. Nous, on est calme, nous. Hein. On est dans le midi, hein. Et voilà, hein.
Et quand je parlais, ils me disaient « Mais toi, tu es étrangère. » Parce que ce n'était pas du tout ce qu'ils avaient l'habitude d'entendre. Ils croyaient que j'étais, je ne sais pas, anglaise ou pas française, quoi.
Quand on parle entre nous, on parle vite, alors. Et ils ne comprennent pas beaucoup, hein. C'est pas évident à comprendre, hein, quand tu parles vite avec ça. Puis après, on mélange. Tu sais, on mélange, on parle, puis on mélange du patois dedans, et c'est fini là. Ils ne comprennent plus rien. Ça n'est pas qui c'est, on mélange, on fout du patois, hein. C'est vite réglé. Hein. On ne parle plus comme ça, il ne nous reste plus. Personne ne comprend, voilà. C'est comme ça.
Oh, on nous fait des réflexions, mais bon, c'est pas...
Moi, ils m'ont jamais dit, moi.
Non, mais on ne te comprend pas. Oui. Moi, ça, on me l'a dit.
Oh, non, on ne le comprend pas parce que je parle davantage avec le cerveau qu'avec la bouche. Si, si, si.
Oui, non, mais
j'ai des idées.
Non, mais c'est vrai, on ne le comprend pas.
Et qui c'est qui ne le comprend pas?
Les gens, les étrangers. Quand je dis étrangers, ce n'est pas les étrangers en dehors du pays. C'est les étrangers en dehors de la région.
Ils te le disent?
Oui.
Et moi, ils ne me l'ont jamais dit, moi. Parce que s'ils me le disent, ils sont là.
Ils le comprennent mieux, les étrangers, les vrais, quoi. Parce qu'il explique mieux avec les mains. Donc, il est compris. Il est compris dans toutes les langues.
Elle m'allume là. Hein.
L'accent du sud.
Oui, l'accent du sud.
Bah, c'est chantant. C'est accueillant, c'est vivant.
Il est agréable à l'oreille, je trouve.
Pour, en tout cas, les gens qui viennent... nous, on appelle ça du Nord. On va dire que c'est chantant.
Moi, j'aime beaucoup. Je pense pas que je l'aurai un jour, parce que si t'es pas né ici, je pense que tu l'auras jamais. Mais, ouais, moi, j'aime bien. J'aime beaucoup.
Ça sent avec le soleil, quoi.
Le soleil, voilà. La mer, la garrigue, les cigales.
C'est la rocaille.
Un cargol se passejabe sous la fouille d'une paret, battrapa un rat bifore que jugabe de la guitare. Plum plum se mêle de plâtres, plum plum se mêle de sploum. Voilà. C'est tout petit, mais c'est mignon.
Je trouve que dans l'accent du sud... sud-ouest, sud-est, sud de la France, il y a plus de vagues, il y a plus de mouvements, il y a plus d'intonations.
Alors, mon accent, ce serait la mer. Une mer un peu déchaînée avec un soleil de dingue.
Moi, je dirais que mon accent, s'il fallait lui donner une réalité, finalement, je trouve qu'il pourrait s'associer à la trame, parce qu'il y a cette idée qu'il n'est jamais pareil. La trame, elle n'est jamais pareille. Elle peut être violente, elle peut être douce, elle peut être chaude, elle peut être fraîche. Mais du coup, c'est extrêmement vivant. Et notre accent, je pense qu'il est extrêmement vivant.
Si je vous le dis, c'est pas beau, c'est un peu coquin, hein. J'y vais, hein. Louben beufoi, et la beuf même passe. Ça veut dire le vent souffle, et la chatte ne vient pas.
Alors le vent, il fait partie du bruit, mais finalement, on l'entend plus à force. Donc on le subit. Quelquefois, il faut le dire aussi, on est surpris qu'il n'y ait pas de vent non plus. Donc.
Le vent est partout, tout le temps. Indissociable de la vie. Et, de la... et peut-être que l'accent en fait partie, parce qu'il faut parler fort quand il fait du vent.
L'accent du Sud, on dit toutes les lettres. Nous, on fait pas comme les Parisiens, on n'enlève pas des lettres. On n'enlève pas des lettres. On prononce les mots comme il faut, comme il faut.
Les fins de mots, on les accentue. Ouais, voilà, le pain, on va pas dire le... Je sais même pas comment dire.
J'aime pas trop l'accent parisien parce que je trouve qu'il mange la moitié des mots. C'est leur accent, hein, et chacun a son accent, moi je trouve que c'est très bien. C'est très bien comme ça.
Alors quand on est ici, on ne nous fait pas remarquer qu'on a un accent, mais quand on part d'ici, qu'on va à Paris, qu'on va en Suisse, etc., on nous parle de notre accent.
On dit quoi ?
C'est exotique. Après, il y a un côté, voilà, ça dépend où, mais à Paris, au-delà de l'exotisme, tout de suite, il y a ce côté parisien où... Parisien, c'est comme ça qu'on doit parler. Les gens du Sud qui ont un accent, ça, c'est un peu terroir, quoi.
L'accent du Sud, c'est vraiment le typique français, quoi. C'est vraiment la France profonde. Pas pareil que Paris. C'est vrai, pareil, Paris, ça, ils n'ont pas d'accent.
Mais à Paris, pour moi, c'est les gens qu'on entend un petit peu, on va dire, à la télé. On va dire qu'ils parlent bien, quoi.
Je sais pas, dans les boulangeries, tout ça, ils se moquent toujours un peu. Enfin, ils se moquent et en même temps, ils aiment, parce que ça leur rappelle les vacances, le Sud, l'accent du Sud. Mais bon, ils reprennent, Vous savez, comme on a une fin de phrase traînante un peu, tout ça, comme on dit toutes les syllabes et les... Ouais, ils se moquaient toujours un peu.
C'est assez marrant cette histoire d'accent parce que, ayant fréquenté pas mal des Parisiens par exemple, je me suis rendu compte que eux, ils ont l'intime conviction qu'ils n'ont pas d'accent et qu'ils détiennent une espèce de vérité comme ça du français et que c'est nous, gens de la province, qui dévions de cette vérité absolue. Il y a un peu de condescendance. Ils ont du mal à admettre que nous, quand ils viennent chez nous, on peut considérer qu'eux ont un accent.
J'avais fait il y a des années sur Toulouse une formation avec des Parisiens. Déjà, on n'avait pas le même langage au niveau français, quoi. Et un jour, il m'a fait la réflexion en cours en me disant « Mais nous, à Paris, on sait parler français. » Il s'est pris un retour, un revers. J'ai dit « Mais ça veut dire quoi, ça ? Tu veux dire qu'on est des incultes ? Il y a deux langues françaises, en fait ?»
D'abord, il y a une question fondamentale, c'est quoi un Parisien ? Parce qu'à l'origine, les vrais Parisiens, ils n'étaient pas nombreux. Hein. Aujourd'hui, ce sont des provinciaux qui sont allés vivre à Paris. Donc, est-ce que c'est des vrais Parisiens ? Est-ce que l'accent parisien existe ? Je ne crois pas. Je crois que c'est le mélange de tous les accents qui a fait qu'à la fin, il n'y a pas d'accent du tout. Quoi.
Alors, pourquoi abolir l'accent ? Parce qu'il faut que ce soit lisse, politiquement correctement. Je déteste ça. Et si ça ne plaît pas et ça dérange, ce n'est pas mon problème. Je l'assume complètement. Par contre, ça peut fermer des portes pour certaines professions. C'est ce que nous renvoie la société. Il faut être parfait, quoi.
J'ai jamais cherché à le perdre. Ça pénalise des fois parce qu'on se fout de... Les gens se moquent. Quand vous êtes dans certaines régions, on se moque de nous. Mais...
J'ai une amie, on est le même jour, la même année. Elle est partie jeune à Paris. Elle a bossé pendant peut-être plus de 20 ans à Paris. Elle est redescendue, mais elle a toujours autant cet accent, quoi. Elle n'a pas perdu.
Pour être vrai, pour être authentique, pour être soi-même, il faut écouter des voix qui vous disent d'où vous venez. Et mon accent fait partie de cette construction. Et je n'ai jamais eu envie de m'en départir.
Moi, j'ai perdu un peu l'accent depuis. J'ai fait mes études, les séjours hors Occitanie. Donc ça revient un peu quand je côtoie des gens qui ont l'accent, mais je pense que je l'ai moins qu'avant. Bah, c'est comment dire, on fait pas exprès, quoi.
Des fois, je peux avoir du mal un peu avec mon accent.
Depuis l'école, depuis le collège, depuis le lycée, l'appartenance au groupe, qui a fait que c'était plus facile d'appartenir au groupe en essayant de gommer un peu cet accent. Et je sais pas, c'est un réflexe.
Je veux pas gommer mon accent. Ça serait perdre l'identité, ça.
Après, moi, j'ai jamais essayé de le masquer là-bas, mon accent, voilà. C'était comme ça, et puis...
De gommer cet accent-là, ça nous dessert. Je crois.
Et ce qui est amusant, c'est que nous, quand on a déménagé dans le sud après 10 ans en Bretagne, j'ai été nommé à Carcassonne, j'ai démarré à Carcassonne, et nos enfants avaient 6 ans et 4 ans. Et le garçon de 6 ans, lui, n'a jamais pris l'accent du sud, jamais. Par contre, notre fille de 4 ans, en maternelle, l'a bien pris. Ouais. Alors qu'ils étaient dans la même école, au même endroit, etc. Elle l'a bien pris, elle l'a gardé, un certain temps, un peu moins maintenant, puisqu'elle a bourlingué. Mais, donc à 2 ans près, finalement, il y en a un qui l'a pris et pas l'autre. Ça nous a toujours un peu amusé. Alors, je suis obligé de le dire, ça lui plaisait pas trop quand elle est devenue adolescente, etc. Et c'est, elle voulait faire du théâtre, des choses comme ça, et ça l'embêtait un peu. Moi, pas du tout.
Ouais, non.
La preuve, j'ai épousé quelqu'un qui avait de l'accent, et j'ai toujours été très sensible aux accents.
Ben non, mais bon.
J'ai fait du théâtre sur Toulouse pendant presque 40 ans. On a essayé souvent de corriger mon accent parce que pour la diction, ça passait beaucoup mieux, c'était plus intelligible au niveau de la compréhension pour les gens. Et moi, je me suis un peu insurgée sur ça parce que je me dis, c'est pas moi. Mon accent fait partie de ce que je suis. Et donc, à mes élèves qui me disent, il faudrait qu'on prenne un peu un accent pointu pour... Non, je leur dis, vous gardez votre accent.
Ce qui se passe souvent sur les accents, les gens, au lieu de dire « Oh, vous avez un drôle d'accent qui ne me plaît pas bien », ils vous disent « J'ai pas compris ce que vous me dites ».
C'est un désavantage d'avoir cet accent-là. Alors pourquoi, je ne sais pas. Hein.
J'ai un ami qui habite à La Palme et qui vient d'un peu au-dessous de Paris. Et il se foutait de moi parce que quand je dis « rose », c'est « rose ». Alors moi, pour moi, c'est « rose », c'est normal, je le dis normalement, mais apparemment non.
Oh mon Dieu, non, contraire, aïe, non. Ah non, je ne voudrais pas le perdre, ah non, jamais de la vie. Ah non, mon accent, c'est mon identité, c'est moi, c'est mes parents, mes grands-parents, les arrière-grands-parents et les arrière-arrière. Non mais c'est vrai, c'est important tout ça, hein. Si je n'avais pas été là, on ne serait pas là, hein. Alors donc il faut quand même le respecter, moi je trouve que c'est important.
Quand je suis venue en France, il y a 10 ans, j'étais très consciente de mon accent et ça m'embêtait un peu parce que je me disais, ah, les gens ils vont savoir que je suis pas d'ici, et j'essayais un peu de l'effacer, je pense.
Quand je discute avec des gens d'autres régions et surtout du Nord, ben, j'ai l'impression de ne pas être pris au sérieux. Mais il y a peut-être aussi ce côté un peu déconneur du sudiste, et le nordiste va être plus sérieux, plus droit, plus carré. Et le latin, eh bien, il va être un peu plus branleur.
À un moment, à l'INDEP, ils embauchaient que des gens du nord de la, au-dessus de la Loire. Donc ce n'était pas un désavantage d'arriver de Bretagne ou d'arriver de Paris ou de la moitié nord de la France. Alors j'avais entendu l'autre fois une interview de Jean-Michel Apathy qui disait qu'il avait tout fait pour pas perdre son accent parce que ça faisait sa singularité à Paris. Voilà, mais c'est vrai qu'après quand on regarde, un équivalent de quelqu'un comme lui, ou des, on n'en entend pas beaucoup à la télé ou sur les chaînes nationales en tout cas.
Dans le domaine du sérieux, dans le domaine du journalisme même, dans le domaine de l'information, etc., l'accent, il n'est pas présent. Et en fait, j'ai eu la sensation depuis tout petit que quand on parlait avec l'accent, on n'était pas pris au sérieux. L'attention était mise sur l'accent plus que sur le contenu. De suite, ça fait poésie, expression, chant, comment dire, folklore. Ça fait pas sérieux.
Ah, c'est Dominique. Attends, Dominique, arrête-toi. Le voisin.
Oh, comme malon des ménilières.
Dis-le qu'il a dit. Quel malheur de devenir vieux. Quel malheur de devenir vieux. D'Ambilis.
De l'Allemagne.
De Steinemann.
Ah. Ah, oui. On a la nostalgie d'avant, mais c'était pas mieux. On n'avait pas d'argent. Non. Et maintenant, on a de l'argent et on est malheureux. C'est le contraire d'avant. Avant, on n'avait pas d'argent et on était heureux. C'est vrai, les fêtes de village, tout ça. Et encore, nous, sur Foya, là, moi, je m'occupe du comité des fêtes à Foya, c'est resté populaire. Hein. C'est resté populaire et c'est bien. Et encore, on n'est pas envahi par... Quoique le village est envahi, lui, de l'herbe qui fait rire. Et, ils ne viennent pas. C'est une population qui ne se mélange pas.
Pourquoi l'herbe qui fait rire ?
Mais l'herbe qui fait rire, c'est l'herbe qui fait rire. On appelle ça, nous, dans les corbières, l'herbe qui fait rire. Si vous voulez, c'est pas qu'on ne les veuille pas, mais ils ne s'intègrent pas avec nous. Ils ne veulent pas. Ils ne s'intègrent pas. Ils ne veulent pas. Je ne sais pas pourquoi.
Maintenant, vous entendez autant des accents d'en haut, parisiens, enfin, et d'ailleurs, chez nous. Ça fait bizarre. Et je pense que d'ailleurs, ils sont plus nombreux que nous.
Mais t'es où, toi? T'es d'où?
Béziers.
Oh, en tout cas, tu parles, t'es le manque. Mais natif de Béziers? Ah, mais t'as l'accent, ouais. Ouais.
Oh, mais tu parles natif de Béziers, quand même. Hein.
Pourquoi?
Parce que vous avez un accent un peu...
Un peu quoi?
Vous avez un accent... pas du midi, quand même, hein.
Pas d'ici, pas de l'autre.
Même pas un peu sophistiqué, je pense. C'est pas d'ici, quoi.
Si vous n'avez pas l'accent, c'est que vous n'êtes pas d'ici. D'ici.
Je suis d'ici, donc j'ai l'accent d'ici, je crois. Je n'essayerai pas de le changer avec le vôtre, par exemple.
Ils disent... Mais t'es de quelle famille? Tu es d'où, toi? Tu es d'où? Et forcément, il n'y a que trois familles hein, dans le village. J'ai peut-être un peu de mal à comprendre des fois, est-ce que t'es d'ici, de cette région? Je me considère française avant tout, et puis... en tout cas, je me sens bien dans cette région, et puis je pense, intégrée ici.
Maintenant, je me sens plutôt d'ici, parce que ça fait quand même 12 ans que je suis ici.
Je sens vraiment Corbière, je sens vraiment adapté complètement. C'est mes Corbières, c'est ma famille, c'est mes vignes.
Je suis palmiste, mais par accent, je suis alsacien.
Je suis né à La Palme et je mourrai à La Palme et enterré à La Palme.
Je suis d'ici, moi. Je suis du village. Je suis né ici, moi. Voilà. Et je ne bouge pas. Je vais mourir ici, je pense, hein, j'espère.
Je partirai jamais. J'étais parti quand je me suis marié, j'étais parti à Paris un an. Je suis revenu, je pétais les plombs là-bas. Je venais fou. Hein. Là, il fallait que je revienne, je ne pouvais pas rester.
Même riche, je n'irai pas dans le Nord. Dans le Nord. Je préfère être pauvre ici que riche dans le Nord. Honnêtement. Après, je ne connais pas le Nord, hein, donc...
Ça fait 4 ou 5 générations qu'on est ici. Parce qu'on est parents aussi avec la famille Bastardi, tu sais. Il n'y a que des consanguins ici. Il n'y avait pas la télévision avant, alors. Et c'est vrai, en plus, c'est vrai. Tout le monde est cousin, la palme, alors. Les vrais palmistes, hein, parce que les vrais palmistes, il n'y en a pas beaucoup maintenant. Hein. Il n'en reste pas beaucoup. Hein. Tous ceux qui s'en vont, c'est fini. Hein. Puis les gens, tout a changé, c'est plus comme avant. La mentalité n'est pas la même.
C'était comment
avant? Ah, c'était mieux. Sans rien voir.
Pour moi, être d'ici, comment vous l'expliquer? C'est peut-être prendre part à la vie collective. Être d'ici, c'est aller aux fêtes comme aller au décès. Je suis très émotive. J'ai toujours... Comment vous dire, la nostalgie de mon pays. C'est drôle, Capitaine Dandy, après 65 ans, tout de même, 64 ans que je suis là, mon pays reste toujours Barcelone.
Être d'ici, je pense que ça veut dire que notre famille, nos arrière-grands-parents, arrière-arrière-grands-parents sont d'ici depuis toujours. Je pense que dans la tête des gens, ça veut dire ça, être d'ici.
Pour moi, c'est quelqu'un qui a des morts au cimetière. Si vous avez des gens au cimetière, c'est que vous êtes d'ici.
Je crois que quelqu'un qui, comme moi, est arrivé pour la première fois en 80...
Oui, toi, tu peux être considéré comme un étranger.
Mais c'est ce que j'allais dire.
Oui, c'est tout.
On entend vite qu'on n'est pas d'ici, donc on nous dit vite, vous n'êtes pas d'ici, vous.
On est d'ici, on connaît tout, on sait tout, que les autres, ils ne savent rien. Et ils vont t'apprendre hein, à connaître le village, ils savent mieux que toi.
Alors, être d'ici, c'est connaître les tenants et les aboutissants des familles, connaître les tenants et les aboutissants des lieux de vie, de connaître le village presque du bout des doigts. Nous, on l'a ancré en nous. Comment expliquer ça? C'est encore autre chose. Nous, c'est passionnel. Voilà. Alors que les autres, ils ne le font pas exprès. Ils ne savent pas. Alors que nous, on l'a dans nos entrailles, on l'a. Les gens du cru, souvent, c'est l'intelligence qui parle. Parce qu'ils n'ont pas fait des études, comme je vous dis, bac plus 7, ou 4, ou 3, ou ce que vous voulez. Mais ils ont... Autre chose, ils ont une âme.
C'est être... D'ici, c'est... Raciner. Les racines.
Ça ne veut pas dire être né ici, ça, ouais.
J'ai un indigène, ça veut dire.
Ouais,
autochtone.
Les familles sont d'ici, quoi.
Je connais plus de gens au cimetière maintenant que dans le village.
C'est pareil.
Je les connais plus.
Oui.
Si les gens étaient restés ici, la science serait retransmise. Mais là, maintenant, les gens, ça fait qu'on naviguer. Il y a 30 000 avions qui tournent sur la terre en haut. 30 000 et des milliards de voitures.
Nous étions un petit village de... 800 habitants tout juste, il y a quelques décennies. Et nous sommes maintenant, je crois, près de 2000. Donc, automatiquement, l'accent se perd.
Je pense que l'accent se perd par rapport à avant. C'était... Mais les jeunes, maintenant, ils ne parlent pas comme nous. Même pas, ils ne comprennent pas, ils ne parlent pas le patois seulement, les jeunes. C'est dommage, ça se perd, ça.
Ce téléphone, ça rend les gens encore plus égoïstes. Hein. Plus égoïstes, hein. Ils ne pensent pas parler avec quelqu'un. Ils n'en ont rien à foutre, ils ont tout là-dessus. Tu vois, ils savent tout ce qui se passe au bout du monde là-bas. Je me demande si c'est bien même nécessaire de savoir ce qui se passe au bout du monde, quand tu ne sais pas ce qui se passe autour de chez toi. Moi, j'aimerais au préfet dire un jour, pendant qu'il y a des coups de mer, dites aux éoliennes une semaine de fermer, les arrêter, pour voir s'il se remettrait à pleuvoir. On dit le réchauffement. Oui, le réchauffement, il sait que les coups de mer arrivent, pareil, comme avant, mais il pleut plus.
Écriture, prise de son, réalisation et mixage, Alice Roy.